France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
Je pense que Charlie Hebdo, c'est des énoncés très sérieux et le bras d'honneur à la fin. Et le bras d'honneur ne dit pas que c'est pas sérieux. Le bras d'honneur multiplie la chose. L'humour, c'est de l'amour, en fait.
C'est bien qu'un dessin vous dérange un peu. Moi, je trouve qu'il faut qu'on bute un peu dessus, quand même. Faut que ça soit un peu râpeux, quoi.
L'accès à l'humour, l'accès au second degré, l'accès à la satire, en fait, c'est pas quelque chose de si commun. En tout cas, c'est quelque chose qui est en train de se perdre, moi, me semble-t-il.
12 personnes assassinées et 11 blessées, c'est le bilan froid que l'on pourrait dresser de l'attaque terroriste islamiste dans les locaux de Charlie Hebdo il y a 5 ans. Cette année, le journal satirique fêtera son 50e anniversaire. Sans Wolinski, Cabu, Charb, Tinius, Honoré, sans Elsa Kayat, sans Bernard Maris, dit Oncle Bernard, sans le correcteur Mustapha Ourad, tous tombés sous les balles des frères Kouachi. 2020 sera aussi l'année du procès des attentats des 7, 8 et 9 janvier 2015. De mai à juillet, 14 personnes vont comparaître devant une cour d'assises spéciale. Autant dire que, même si l'élan de solidarité qui a suivi l'attaque a permis de renflouer les caisses, même si les rescapés ont repris goût à la vie, même si de nouveaux collaborateurs sont venus renforcer l'équipe, cette page tragique est loin d'être tournée. Dans son édito de cette semaine, le directeur de Charlie Hebdo, Rhys, écrit « Ce journal nous en a fait voir de toutes les couleurs. Interdiction, procès, agression, incendie, fatwa, attentat, menace de mort. On aimerait être sûr que la liste s'arrête là. » Mais la vie d'un journal libre est peut-être inévitablement celle-là, ballottée en tous sens comme un fétu de paille dans une tempête sans fin. Charlie Forever, c'est un reportage signé Antoine Marette. Dans Grand Reportage, le magazine de la rédaction, nous recevons Zineb El-Razoui, bonjour.
Bonjour.
Écrivaine, journaliste, militante des droits humains, vous avez travaillé à Charlie Hebdo. Et bonjour Jean-Marie Charon.
Bonjour.
Sociologue, chercheur associé à l'EHESS, vous êtes spécialiste des médias et de l'information. Et je cite votre dernier livre, Rédactions en invention, paru chez UPPR Édition. Je vous inviterai tous les deux à réagir au reportage d'Antoine Marette. Un reportage, Antoine, consacré au Charlie Hebdo de 2020.
Car depuis le 7 janvier 2015, beaucoup de choses se sont passées dans la vie du journal. Il y a d'abord eu cette vague de soutien. Je suis Charlie a fait le tour du monde. Charlie Hebdo qui a cumulé les dettes est passé de 45 000 à 8 millions d'exemplaires. Et puis la vague est retombée pour atteindre un rythme de croisière de 60 000 exemplaires, 30 000 abonnés papier et 30 000 ventes en kiosque. Entre temps, quelques portes ont claqué. On se souvient notamment du départ tonitruant de Patrick Pelou notamment, qui souhaitait faire de Charlie une société coopérative. Charlie a donc renouvelé son équipe et nous allons partir à la rencontre de cette rédaction composée d'anciens et de nouveaux qui tentent de perpétuer l'esprit Charlie.
Et votre reportage commence à Strasbourg où vous avez suivi une partie de l'équipe de Charlie Hebdo.
Bonjour.
Alors je vous donne mon sac, c'est ça ?
On va juste ôter également votre veste, bon, s'il vous plaît.
Où sont les cahiers ?
Il faut une minutieuse.
Oui, voilà.
À la palpation maintenant, vous avez tout vidé, ce qu'il y a dans vos poches.
Donc nous sommes le samedi 2 novembre 2019. C'est la première fois que l'équipe de Charlie Hebdo se montre en public et va répondre lors d'une table ronde aux questions des spectateurs qui doivent montrer patte blanche. Il y a des contrôles de sécurité à l'entrée, on fouille les sacs.
Bonjour madame. Je vais enlever la bouteille. La bouteille, je vais enlever toute la bouteille.
Bonjour madame, je suis journaliste à France Culture, vous venez voir l'équipe de Charlie Hebdo ?
Oui, absolument.
Alors là, on a donc des détecteurs de métaux, on a des fouilles de sacs.
Oui, on n'est pas surpris, c'est normal.
Vous êtes une lectrice de Charlie Hebdo ?
Non, pas en particulier. J'ai découvert malheureusement, mais grâce aux attentats qu'il y avait eu. Et c'est là que je me suis intéressée à leur culture et à ce qu'ils faisaient dans le journal.
Et alors, vous en pensez quoi ? Ça vous heurte de temps en temps ?
Oui, mais je pense que c'est bien qu'ils soient là. C'est bien qu'ils disent et qu'ils continuent à faire ce qu'ils font.
Pourquoi ?
Ben, pour toujours défendre la démocratie le plus possible.
Elle est en danger, la démocratie ?
On peut se poser la question. Et j'attends beaucoup de la conférence, justement, cet après-midi, pour en savoir plus sur le sujet.
On va pas avoir une après-midi avec des airs de médecin légiste. On va essayer de parler tranquillement, posément, sereinement. Et puis déjà, peut-être une première question pour vous, Rhys. Savoir, prenez n'importe quel micro, je pense. Savoir comment vous allez et comment va Charlie ?
Comme vous pouvez le voir, Charlie est vivant. C'est quand même pas négligeable.
vivant avec une équipe jeune, renouvelée, et qui a plein de projets, et qui est là aujourd'hui, cet après-midi. Donc c'est un journal qui a retrouvé sa vivacité et son dynamisme. Voilà.
Dans la salle pas tout à fait comble de l'Opéra National du Rhin ce samedi, pendant près de deux heures, l'équipe de Charlie Hebdo débat autour de la liberté d'expression. Des dessins réalisés en direct défilent en arrière-plan, interrompant parfois les discussions par des rires. S'ensuit une longue séance de dédicaces. Les lecteurs, jeunes ou moins jeunes, s'arment de patience pour obtenir un autographe. Parmi eux, Francis Hatch, fidèle de la première heure. Il a commencé à lire Charlie quand il était étudiant, il y a maintenant près de 50 ans.
J'ai fait dédicacer Le Banquet par Coco. Je lui ai demandé le dessin du bretzel qui est extraordinaire. Voilà. Bon, elle m'a écrit « Peut-on dessiner Mahomet ?» Et elle a écrit « À Strasbourg, oui », en présentant Mahomet avec un bretzel sur la tête. Et c'est extraordinaire. Quoi. J'aime beaucoup les bretzels déjà avec une bonne bière, et donc ça tombe bien, oui.
À Strasbourg, oui, Francis. Francis, c'est vous, donc.
Francis, c'est moi, oui, tout à fait. Voilà, j'ai fait également Paris, j'ai fait signer. Bon, il m'a aussi fait un dessin qui est très, très symptomatique, hein, effectivement. C'était sur le bouquin Charlie Hebdo, tout est pardonné. Bah, il m'a fait un dessin en mettant Danon, tout n'est pas pardonné.
Et on voit un petit chien et la signature
de Rhys. Et la signature de Rhys, voilà. Donc, bah évidemment, ce bouquin prend une certaine valeur.
Rhys est le directeur de publication de Charlie Hebdo. Il fait partie des rescapés du 7 janvier 2015. C'est la première fois depuis l'attaque qu'une telle rencontre avec les lecteurs est organisée.
Les années qui ont suivi l'attentat ont été des années très difficiles où il fallait reconstruire le journal. Et très honnêtement, on n'avait pas vraiment le temps de faire ce genre d'événement. Puis on se sentait pas non plus vraiment en sécurité non plus. Hein. Il y a aussi un problème de sécurité. C'était très difficile d'organiser des événements où tout le monde, en tout cas une bonne partie de la rédaction se présente au public. Et puis aussi, il faut dire ce qui est, c'est que bon, il y avait des membres du journal qui voulaient pas se présenter devant le public. Hein. Il y avait encore une crainte. Bon, visiblement aujourd'hui, les gens ont moins peur et bon, c'est plutôt un aspect positif, même s'il faut toujours être prudent.
Et qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre, puisque vous avez rencontré des lecteurs, vous avez fait des dédicaces, il y a eu des mots échangés ?
Oui, bah, en fait, j'ai l'impression d'avoir retrouvé ce qui existait avant, janvier 2015. Parce que quand on faisait des rencontres, des dédicaces, soit avec Charles Cabus, il y avait exactement ce même genre de relation très, très forte avec le lectorat. Donc ce qui me réconforte, c'est de voir que ça existe à nouveau, ça n'a pas disparu. Ce lien très fort entre les lecteurs, c'est presque les mêmes mots que j'entendais avant janvier 2015 de continuer. On nous disait ça avant. Je dirais qu'il y a un lien qui s'est peut-être reconstruit avec le Charlie d'avant janvier 2015.
Après l'attentat à Charlie, il y a une vague de soutien très forte en France et dans le reste du monde. Est-ce que cette vague, 5 ans après, elle est un peu retombée ?
Cette vague, comme toutes les vagues, au bout d'un moment, elle retombe et elle s'étale. Bien sûr qu'il est évident que cette vague allait retomber. Mais c'était un moment de soutien, c'était un moment d'émotion. C'est très bien que ça ait eu lieu aussi. Mais il était évident qu'un jour, les choses allaient redevenir plus normales. Parce qu'au fond, cette vague de soutien, elle était à la fois positive, mais en même temps, elle signifiait que quelque chose de grave était arrivé. Et finalement, on a envie que les choses redeviennent normales. Et non pas parce que les gens ne soutiennent plus Charlie, mais parce qu'un climat de tension, un climat de anxiogène comme 2015, on ne peut pas vivre là-dedans tout le temps et on ne peut pas non plus défiler tout le temps. On a envie de se dire que la vie normale revient, qu'on retrouve une vie normale. Donc c'est normal que les gens, au bout d'un moment, veulent avoir l'impression de retrouver une vie comme avant, même si c'est peut-être un peu plus ou moins vrai. Mais oui, je pense que les gens rêvent de revenir à leur vie d'avant.
Ce samedi de novembre, c'est un lien qui se reconstruit entre l'équipe de Charlie Hebdo et ses lecteurs après 5 années de frustration. Des lecteurs anciens ou plus récents, comme Nadine Huss.
Je n'étais pas lectrice au départ, j'ai découvert Charlie Hebdo après les attentats, effectivement. C'est vrai que ce n'était pas forcément le journal qu'on achetait en priorité. On l'a acheté, on l'a lu, on s'est rendu compte que c'était effectivement une autre forme d'expression, tout simplement, une autre forme d'entrée en matière, enfin de voilà, de journalisme. C'est intéressant. C'est intéressant, ça choque, certes, mais c'est intéressant.
Donc les frères Kouachi, ils ont voulu tuer Charlie Hebdo, et c'est en faisant ça qu'ils vous ont permis de découvrir Charlie Hebdo.
Absolument, absolument, en voulant faire du mal, ils ont fait du bien finalement, enfin du bien, pardon de l'expression, mais ils ont, c'est à l'encontre de ce qu'ils voulaient faire. Et c'est pour ça, en ça, ça a été positif, c'est la seule petite pointe positive qu'on pourra en tirer. Mais ça a permis sans doute à beaucoup de personnes de découvrir le journal et surtout de découvrir la liberté de la presse et la liberté d'expression. Et celle-là doit demeurer.
Et alors vous avez découvert Charlie, vous êtes passé des DNA à Charlie Hebdo, c'est ça?
On ne va pas dire ça, mais pratiquement oui, c'est vrai que ça m'est arrivé de lire Le Monde aussi. Mais c'est vrai qu'on lit des journaux plus localement. C'est vrai que Charlie Hebdo, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. C'est tout à fait un autre style. Il interpelle par la caricature, qui est vraiment finalement quelque chose de bien. Hein. C'est de l'art, ça interpelle, ça ouvre à des questionnements. C'est vrai que ce n'est pas des articles écrits exclusivement. Et c'est ça qui est bien. C'est une autre forme, ça interpelle l'esprit d'une autre manière.
Et alors, vous êtes parfois choqué par Charlie ?
On peut être choqué, effectivement, mais je crois qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Hein, j'ai découvert là, effectivement, dans le journal qu'on a acheté cette semaine, les caricatures de Sophie Le Tan. La première approche est très choquante. On voit la tête souriante de la jeune fille et puis le corps découpé en morceaux, un pied, un pantalon, des chaussures, voilà.
Avec ce titre, le puzzle Sophie Le Tan pour occuper vos enfants pendant les vacances.
Voilà. Je veux dire, au premier abord... On a envie de fermer le journal et de dire mais est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils ont fait ? Hein, le corps découpé en morceaux, c'est choquant quand on pense à cette famille qui souffre, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Ils l'ont très bien expliqué dans la table ronde, il ne faut pas s'arrêter à ça, il faut voir au-delà.
Ça part quand même d'un fait divers tragique, une jeune fille assassinée.
Exactement.
Et on en rit.
Je ne pense pas qu'on en rit. Je pense pas qu'on en rit. Il le disait bien dans la table ronde qu'on ne rit pas uniquement de leur caricature. Il faut qu'elle interpelle. Et là, c'est le cas. Elle interpelle, elle nous fait entrer en discussion.
En quoi elle interpelle, celle-là précisément ?
Par la violence des images, des dessins. Elle est violente. Mais elle est violente comme a été l'acte violent. Mais le fait de le médiatiser fait aussi qu'on ne l'oublie pas.
Dans le TGV qui la ramène à Paris, l'équipe de Charlie savoure cette journée historique dans une ambiance très colonie de vacances, malgré les policiers en civil qui se font le plus discret possible.
À lundi.
Ciao.
Salut mon ami. À l'arrivée à la gare de l'Est, l'équipe se sépare, à l'exception des deux écrivains, Robert McLiam Wilson et Yannick Enel, qui joue les prolongations sur le quai de la gare.
Ce qui s'est passé là aujourd'hui, j'en étais sidéré parce que je ne pensais pas ça. En allant sur scène pour parler avec Charlie Hebdo, c'est l'enthousiasme. L'enthousiasme au sens grec, c'est le souffle. Moi qui participe modestement en faisant des chroniques à Charlie Hebdo, je me pose tout le temps la question de savoir où est Charlie Hebdo dans la société française aujourd'hui. J'ai aussi envie de faire un bras d'honneur à la société française. J'ai aussi envie de dire à la société française d'aller se faire foutre. Et là, non mais c'est vrai, enfin, sinon j'écrirais pas à Charlie Hebdo, j'écrirais au Monde ou j'écrirais au Figaro. Mais là j'ai vu à Strasbourg quelque chose de dingue, enfin vous l'avez vu vous-même, qui est une sorte d'amour en fait.
C'était de fierté.
Ouais, absolument, ouais. Robert.
Fierté. Vous êtes fier, Robert ?
Moi, je m'en fous parce que c'est pas français, donc j'ai rien pigé de ce que les gens m'ont raconté. Mais j'ai remarqué que le public était fier d'être là, de Charlie lui-même. Et en fait, c'était un truc qui m'a touché parce qu'en tant qu'étranger, je pouvais voir que, très honnêtement, plus français, tu meurs. Les gens qui sont venus pour voir des dessinateurs qui étaient menacés, les dessinateurs qui étaient là pour défendre la liberté de la presse. C'est quand même c'est la révolution, c'est la renaissance, c'est l'éclaircissement.
Mais ce que dit Robert McLean Wilson est important. Voilà, la chose, C'est très étonnant, enfin, d'articuler quelque chose de politique alors qu'on n'est pas des politiques. Parce que moi, je réfute. Moi, j'ai tout le temps envie de faire un bras d'honneur. Dès que j'énonce quelque chose, je fais un bras d'honneur. Je pense que Charlie Hebdo, c'est des énoncés très sérieux et le bras d'honneur à la fin. Et le bras d'honneur ne dit pas que c'est pas sérieux. Le bras d'honneur multiplie la chose. L'humour, c'est de l'amour, en fait.
Que mais... les intellos français bavardent, quoi.
Mais tu oh vois, tu Dieu. Vois, tu vois, tu vois.
Ça dure
non, mais c'est pas. C'est... Ok, ciao, salut.
Crayon à la main, des idées qui résonnent, des mille et un essaims n'ont jamais tué personne. Pour vous les oiseaux rares, et pour vos grandes plumes, et pour l'humour de l'art, dans vos rires posthumes. Je suis tué, il est nous sommes, à l'unisson, comme un seul.
À Charlie Hebdo, il y a les anciens, ceux d'avant 2015. Et il y a la nouvelle génération, celle qui a rejoint l'équipe après l'attentat. Le dessinateur Juin a été recruté par RIS en mai 2015. Il avait découvert le journal en tant que lecteur 11 ans plus tôt, alors qu'il était en prépa littéraire. Et c'est Charlie qui lui a donné cette vocation de dessinateur de presse.
Ce qui est bien, c'est que vu que l'actualité change tout le temps, enfin en général, quand on n'a pas un an de gilet jaune par exemple, avec des éborgnés, des mains en moins chaque samedi, là ça peut être dur de se renouveler. Mais après, bah voilà, faut faire attention à pas se transformer en petit vieux qui radote en fait. Et ça vient super vite avec l'actualité parce qu'il y a quand même un certain nombre de marronniers. Faut pas être non plus dans la blague de bureau parce qu'entre nous on a des voilà, il y a des trucs, on a qu'à se faire un clin d'œil pour rire. Ouais, c'est ça. Donc faut pas être là-dedans, parce que le problème, c'est que quelqu'un qui va acheter le journal une fois, s'il voit des private jokes comme ça, il va pas les comprendre, il va se dire « bon, bah, Charlie, c'est pas pour moi ». Donc, un dessin, faut qu'il soit publiable dans le journal, faut qu'il soit compris. Et c'est toute la difficulté, c'est de faire un dessin qui soit compris. Nous, on lit l'actu toute la semaine, on en a imprégné et tout, mais quelqu'un qui va acheter le journal une fois par semaine, il va pas forcément avoir le même niveau de connaissance. Donc c'est à ça qu'il faut s'adapter pour faire ce dessin.
Il y a des dessins qui vous choquent à Charlie Hebdo, qui vous dérangent.
Bah c'est bien qu'un dessin vous dérange un peu parce que sinon voilà ça passe comme ça. Un dessin, moi je trouve faut qu'on bute un peu dessus quand même. Faut que ça soit un peu râpeux quoi.
L'exemple d'un dessin qui a été râpeux pour vous.
Je sais pas si c'est assez rare quand même les dessins qui. Ah si, il y a quand même un dessin de RIS sur lequel, bon, je savais pas trop sur quel pied danser ou quoi. C'était le dessin qu'il avait fait, c'était à Cologne au moment du réveillon. Que serait devenu le petit Island s'il avait grandi? Tripoteur de fesses à Cologne ou un truc comme ça. Donc voilà, on sait pas trop comment le prendre. Après, c'était surtout pour se foutre la gueule de tous ceux qui disaient que serait devenu ce petit enfant s'il avait grandi. Bah forcément, il serait devenu quelqu'un de formidable. Et là, c'était de ça qu'ils se moquaient, quoi. Ils disaient pas que tous les migrants étaient des ploteurs, quoi. Voilà, mais bon, moi j'aime bien les dessins où quand même on est obligé de... On n'a pas de mode d'emploi, on ne dit pas « il faut rire à cet endroit-là ». Voilà, j'aime bien quand on peut être un peu dans l'interrogation. Il a une durée de vie plus longue. Quoi.
Le dessin qui choque, qui dérange, qui questionne, c'est l'ADN de l'esprit Charlie. Coco a rejoint le journal en tant que stagiaire il y a 12 ans. Elle a découvert alors cet esprit Charlie qui ne l'a depuis jamais quitté.
On est un journal d'opinion avec des opinions qui se formulent de manière différente. Soit ça tape, soit c'est plus fin, soit c'est plus cynique. Moi, je me laisse le droit de prendre tous les chemins possibles.
Alors, est-ce qu'il y a des dessins qui sont diffusés dans Charlie pour lesquels vous avez été mal à l'aise ou pour lesquels il y a eu des débats?
Bon, vous savez, on baigne dans... Enfin, nous, on est un public un peu averti à ce genre de choses, donc c'est vrai que j'ai pas envie de vous dire que rien me choque, mais c'est vrai que pas grand-chose me choque en termes de dessin. Qu'est-ce que je pourrais... Attendez, j'ai besoin de réfléchir un peu. Qu'est-ce qui me choque? Il y a un sujet qui a particulièrement fait débat dans la rédaction, c'est la PMA pour toutes. Moi, je suis plus vraiment pour la PMA pour toutes. Je trouve que bon, ben, la PMA c'est déjà en place depuis un moment chez les hétéros et je pense que ça changera absolument rien de l'ouvrir aux couples de femmes. Au contraire, je trouve que je suis plutôt pour ce principe. Et dans la rédac, il y en a pas mal qui sont contre. Et c'est vrai qu'il y a eu des dessins anti-PMA que moi je partage pas cette opinion. Alors après, voilà, chacun ses opinions, donc ça n'empêche pas ceux qui sont contre de pouvoir dire qu'ils sont contre. Je veux dire, je serais mal placée pour dire « Ah bah toi, tu fais pas ça parce que je suis pas d'accord avec toi ». Enfin, je veux dire, on se bat chaque jour à Charlie pour pouvoir avoir cette liberté d'opinion, justement. Alors bon, le sujet sur lequel il y a pu avoir des désaccords, c'est la PMA, oui, par exemple, la PMA pour toutes.
En 2015, la vague de soutien à Charlie a été d'une ampleur mondiale. La rédaction a reçu pendant plusieurs mois des sacs entiers de courriers chaque jour. Des dessins en particulier, 23 000 en tout. La journaliste Agathe André en a sélectionné une centaine pour en faire un livre. Elle a ensuite fondé l'association Dessiner, Créer, Liberté.
Alors l'objet de cette association, c'est vraiment de créer du dialogue, en fait, de débattre de la liberté d'expression, bien sûr, de la laïcité, des limites à la liberté d'expression, de la liberté de conscience, du terrorisme, bien sûr, du fanatisme, de l'appropriation politique de la religion, des valeurs de la République, du racisme aussi, des discriminations, c'est-à-dire qu'on travaille aussi beaucoup sur sur les amalgames, en fait, à la vérité, sur l'égalité homme-femme aussi. En fait, en gros, tous les sujets qui traitent de l'actualité, hein, pour être tout à fait sincère.
Quand vous allez dans des établissements avec une partie des élèves, des collégiens, des lycéens ou des détenus qui sont musulmans, comment ça se passe? Comment est-ce qu'ils réagissent?
Bon, ben là, il y a tout un travail. D'abord, montrer ce que c'est Charlie Hebdo, parce que bien souvent, ils ne savent pas du tout ce que c'est. Donc, c'est un journal, en fait, avec 16 pages, avec des articles, avec des dessins. Et puis, quand c'est sur la question du racisme, ce qui se passe, en fait, c'est qu'ils pensent que critiquer la religion, c'est critiquer le croyant. Donc, ça, c'est pareil, c'est très intéressant de montrer cette petite nuance, en fait. Que la question de la critique de la religion ou de l'instrumentalisation, c'est qu'on vient critiquer une idée. Le musulman, il est concret, c'est un homme. Les limites à la liberté d'expression, elles viennent typiquement mettre un holà dès qu'on est sur quelque chose qu'on n'a pas choisi. Bon, alors, sur le cas de la religion, c'est pas toujours vrai, mais d'une communauté, d'une orientation sexuelle, d'une couleur de peau, d'un sexe, Donc ça, c'est pour faire comprendre cette nuance que la critique des idées, c'est pas la critique des identités, en fait.
C'est une nuance quand même très subtile. Est-ce qu'elle est comprise par tous?
Bah, je crois que oui, parce que d'abord on sort quand même de la question de l'islam aussi, et puis on explique que sur la question des interdits, enfin surtout du respect du croyant, par exemple, est-ce que vous mangez des steaks hachés? Ouais, on mange des steaks hachés, ok. Vous avez le sentiment, quand vous mangez un hamburger, de manquer de respect à un hindouiste? Pour qui la vache est vraiment quelque chose d'extrêmement sacré. Et là, on sent qu'il y a quelque chose, il y a un déclic, en fait, sur ces questions-là. Quand, par hasard, vous marchez sur une fourmi, avez-vous le sentiment de manquer de respect à un bouddhiste? Ah ben non, ah ben voilà. Sauf qu'imaginez à quel point ça peut heurter le bouddhiste. Et là, ils comprennent effectivement que l'interdit ne concerne que celui qui y croit. Bon, par ailleurs, c'est aussi très intéressant de questionner la question de la religion. Qu'est-ce que c'est la religion? Et on a un dessin, d'ailleurs, de Luz, qui fait un parallèle entre le mythe du Père Noël et la religion. En gros, une petite fille dit « le Père Noël n'existe pas » et le gamin en face répond « t'insultes ma religion ». Donc là, il est intéressant ce parallélisme-là pour expliquer qu'est-ce que c'est une religion, en fait. Qu'on peut y adhérer, pas y adhérer. Qu'est-ce que c'est un athée? On peut partager les mêmes valeurs, en fait, que quelqu'un qui croit. Donc voilà, c'est la question de la liberté de conscience, évidemment, de la laïcité, mais vraiment expliquée comme, parce que c'est le cas, comme un principe d'égalité, en fait, de tous devant la loi, qu'on est un citoyen avant d'être un croyant. Donc ça fonctionne, en fait, ça fonctionne et ça fonctionne, j'ai même envie de dire, bien mieux, me semble-t-il, qu'avec de grands intellectuels qu'en pignon sur rue, en fait.
Vous pensez à qui?
Je pense à Edwy Plenel, par exemple, je pense à des plantus qui ont vraiment été très très lâches au moment de l'affaire des caricatures, je pense à tous ces gens qui sont frileux de quelque chose, ce n'est pas frileux puisqu'il suffit de discuter, en fait, et de dialoguer. Ensuite, il arrive parfois, étonnamment, que ce soit des gentils petits catholiques, entre guillemets, qui viennent défendre le musulman. Donc ça, c'est plutôt très drôle. Mais voilà, c'est qu'en fait, effectivement, la religion semble devenue C'est une identité, en fait. On n'est même plus sur la question de l'intime et de la croyance. Et ça fait soi. Donc, il faut mettre les mots là-dessus. En prison, là, j'avais bossé avec, effectivement, des gens qui étaient incarcérés pour radicalisation. Il y avait des gens qui ne voulaient pas regarder, en fait, les dessins. Bon, moi, quand j'interviens toute seule, je commence toujours par raconter mon parcours et les voyages avec une carte à l'appui où j'ai été, pas été. Ça permet aussi des gens de dire « Ah, bah, moi, je connais là, la Turquie. Ah oui, d'accord, toi aussi, t'es là. Non, moi, j'ai été à Kaboul, etc. » Donc, il se crée aussi quand même quelque chose de confiance. Et puis, j'arrive effectivement à Charlie Hebdo. Alors, tout de suite, il y a toujours un petit pas de recul. « Ah ouais, mais Charlie Hebdo, je suis bien, on va regarder des dessins ensemble. » Bah, mine de rien, il rigole. Et puis, arrive la représentation de Cabu sur le dessin. Donc, on explique aussi que...
Il faut la raconter peut-être,
cette une. Ah oui, c'est la fameuse une lors de l'affaire des caricatures danoises. En fait, c'est le prophète qui se cache le visage, qui pleure, qui est surtitré « Mahomet débordé par les intégristes » et une bulle qui sort de la bouche du prophète qui dit « C'est dur d'être aimé par des cons ». Voilà. Donc cette une-là aussi, très facile pour comprendre un dessin. Si on cache la titraille, effectivement, elle pouvait tomber sous le coup de la loi puisque ça pouvait dire que tous les musulmans sont des cons. Alors là, il est très clair que ce sont les intégristes qui sont des cons. Bon. Et donc cette fameuse une, donc je montre ces dessins-là à ces prisonniers, et en fait, ils ne l'avaient jamais vue. Et sans les dire, mais c'était ça. Parce que d'à côté, je montre absolument d'autres dessins très, très virulents contre l'Église catholique, contre les juifs, enfin voilà. Et les gens rigolent, en fait, mais l'accès à l'humour, l'accès au second degré, l'accès à la satire, en fait, c'est pas quelque chose de si commun. En tout cas, c'est quelque chose qui est en train de se perdre, moi, me semble-t-il.
C'est du brainstorming.
C'est voilà, la manif de dimanche, ça.
Ça, avec une couverture comme ça. Avec une couverture, on va vendre. Hein. Rappelez-moi votre nom, toi. Avant, il y avait que des vieux cons ici. Maintenant, il y a des jeunes qui sont encore plus cons que nous.
Charlie Hebdo a succédé en 1970 au fameux Harakiri, journal autoqualifié de bête et méchant. Et malgré ses 50 ans, Charlie veut rester coûte que coûte ce journal qui dérange. Une mission de plus en plus difficile, selon son rédacteur en chef, Gérard Biard.
On le voit régulièrement, dès que quelqu'un s'exprime de telle ou telle manière dans les médias, on a tout de suite une réaction très épidermique, généralement sur les réseaux sociaux. Il est devenu de plus en plus compliqué d'exprimer une opinion, parce qu'aujourd'hui, une opinion n'est plus reçue comme telle, mais comme une attaque personnelle, comme une attaque intime presque, par des individus ou des groupes de personnes qui considèrent que dès lors qu'on émet un avis, on remet en question leur prétendue identité ou l'identité qu'ils se sont forgés, leur essence même. Donc ça il devient effectivement de plus en plus compliqué pour un journal d'opinion, ce qui est Charlie Hebdo, pour un journal politique, d'émettre des avis. C'est d'autant plus compliqué que Charlie Hebdo est d'abord un journal de dessinateurs et que le dessin de presse, c'est assez compliqué. Il y a toujours forcément un second degré de lecture. Il y a ce qu'on voit et il y a aussi ce que l'auteur a voulu dire. Il y a aussi le contexte dans lequel il le dit. Il y a pourquoi il le dit. Et il y a la façon, évidemment, aussi, dont on le perçoit. Donc tout ça n'est pas simple. Si on se limite à une lecture brute, on passe évidemment à côté du fond même du message du dessin. Ou dernier exemple en date, les dessins alors là, qui ont été publiés non pas dans le journal papier mais sur le site du journal pour commenter l'actualité dramatique des 13 soldats morts au Mali. Biche a fait un détournement de plusieurs affiches de la campagne de recrutement de l'armée de terre, ou de l'armée en général d'ailleurs, c'est pas que de l'armée de terre. Donc il a détourné ses affiches en montrant au fond que ce que cette campagne dit, à savoir que la vie militaire c'est l'engagement pour les autres, c'est voir du pays, c'est se dépasser soi-même, ce qui est sans doute vrai. Mais cette campagne fait l'impasse et laisse soigneusement dans l'angle mort un des aspects de la vie quotidienne militaire qui est la possibilité de mourir au combat. Et donc, ces dessins parlaient de ça. Dans ce cas précis, évidemment, le reproche, l'attaque majeure qui nous était faite, c'est ce sont des gens qui vous défendent, ils sont partis combattre le terrorisme, ils sont partis combattre les gens qui vous ont tué, vous êtes des dégueulasses, vous êtes des ingrats, enfin voilà. Donc il faut à un moment expliquer de quoi parlent ces dessins. Ce qui était au fond parfaitement superflu avant. D'une part parce qu'il y avait une culture du dessin de presse, parce que les gens lisaient beaucoup plus les journaux. Il y avait une culture du dessin de presse qui était beaucoup plus présente. Et surtout, il n'y avait pas une diffusion massive via Internet et les réseaux sociaux de dessins totalement sortis de leur contexte, parfois tronqués, évidemment abondamment commentés, détournés, et hors contexte, et à des gens à qui ils ne s'adressent évidemment pas.
C'est-à-dire que vous avez, parfois votre corps défendant, élargi votre lectorat. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde peut avoir accès à vos dessins, alors qu'avant, ça n'était que les lecteurs de Charlie Hebdo.
Oui, mais c'est précisément, avoir accès à des dessins, c'est pas un lectorat, ça. Ce sont des gens qui, de toute façon, n'ont jamais ouvert Charlie et ne l'ouvriront jamais. Ce qui a changé, en fait, c'est que, malheureusement, à cause des réseaux sociaux, à cause d'Internet, on peut plus vraiment dire, mais vous n'êtes pas obligé de le voir. Alors, on peut toujours dire, vous n'êtes pas obligé de l'acheter, vous n'êtes pas obligé de le lire, ce que généralement ils ne font, ils ne le font pas, ils ne l'achètent, ni ils le lisent. Mais le système de diffusion aujourd'hui, obligatoire, via les réseaux sociaux, via Internet, fait que, on se retrouve avec sous le nez des choses, d'abord qu'on n'a pas forcément envie de voir, tout simplement. Je comprends très bien que les proches des victimes de ces soldats n'aient pas envie de regarder ces dessins. Mais ceux qui sont à blâmer, ce sont les gens qui leur ont mis sous le nez, parce qu'ils ne les auraient jamais vus autrement. Donc c'est ça aussi ce qui a changé.
Je suis tué, il est nous sommes à l'unisson, comme un seul âge. Dans mes pensées, comme un cri dans la ville, à bout portant, dans nos cœurs fragiles.
Le 7 janvier 2015, les frères Kouachi ont tué 12 personnes, dont 8 membres de la rédaction de Charlie Hebdo. Mais ils n'ont pas réussi à anéantir l'esprit Charlie. 5 ans après, il est toujours là au sein d'une équipe en partie renouvelée qui perpétue la tradition bien française de la caricature, malgré les critiques, malgré les menaces et malgré le deuil aussi. Coco fait partie des rescapés de l'attaque du 7 janvier et elle envisage cette année 2020 avec une certaine appréhension.
C'est une année un peu particulière qui s'annonce parce que ce sera l'année du procès. Et ça va être dur, c'est... comment ? Non, mais en fait, on n'en parle pas tellement du 7 janvier entre nous, vous voyez. Et là, le fait que ça approche, ben, c'est vrai qu'on se remet un peu dedans, enfin, le 7 janvier, il est en nous, quoi, vous voyez, ça a détruit pas mal de choses, et là, le fait que le procès s'annonce... On a hâte d'en finir un peu, juridiquement, au niveau de la justice, quoi. Que les gens qui sont complices de ces meurtriers soient mis face à leurs responsabilités et que nous, on tournera pas la page, mais enfin, ça actera quelque chose et puis on pourra encore un peu plus aller de l'avant.
Charlie, l'étendard est levé, même si le ciel est gris, j'entends le vent siffler. Le vent universel de la fraternité.
Comme un seul homme, l'hommage de M. Mathieu Chédid, une chanson composée en janvier 2015. Charlie Forever, un reportage d'Antoine Maretz avec Annie Brault à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Invité de grand reportage, le sociologue spécialiste des médias Jean-Marie Charron et la journaliste Zineb El Razoui, ancienne de Charlie Hebdo. Zineb, à la fin du reportage, Coco évoquait ce procès qui doit se tenir cette année. Vous-même, est-ce que vous l'appréhendez, ce procès ? Est-ce que vous en attendez quelque chose ?
Alors, ma plus grande crainte, c'est que ce procès
ne nous apporte pas ce que nous attendons d'un procès. Ça ne sera pas un véritable procès de cour d'assises. Parce que les personnes qui sont là dans le box des accusés sont des personnes qui sont là, si j'ai bien compris, pour association de malfaiteurs, donc qui ont vendu des armes à des douceurs sans forcément savoir ce qui allait être fait. Donc aux yeux de la justice, elles sont complices, elles sont coupables. C'est très bien qu'elles soient punies. Mais nous, en tant que partie civile, on n'a pas, pour nous, ce crime demeurera impuni puisque les frères Kouachi, les auteurs sont morts et on n'arrive pas à remonter à des commanditaires. Et le plus difficile, c'est de voir que l'idéologie qui est responsable de ce crime, elle a toujours pignon sur rue, en France et ailleurs dans le monde. Et moi, j'espère vraiment un jour avoir le procès, assister au procès public de cette idéologie-là.
Alors dans le numéro paru cette semaine de Charlie Hebdo, une page entière est dédiée aux injures, menaces et noms d'oiseaux de l'année 2019. Ce fut encore un grand cru, nous dit Charlie. Jean-Marie Charon, sur ce plan, est-ce que Charlie Hebdo est un journal unique en France ?
Alors, si vous voulez, déjà, il faut se dire que la presse satirique, son histoire remonte à l'histoire de la presse. C'est-à-dire que la presse apparaît en France au XVIIe siècle. C'est d'abord une presse officielle, contrôlée par le roi, etc. Et la seule presse critique, à l'époque, ce qu'on appelait la presse sous le manteau, une presse écrite à la main, d'ailleurs, parce qu'on ne pouvait pas l'imprimer, c'était les libelles. Et c'était donc cette presse satirique. Ensuite, c'est vrai que la Révolution française, avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 11 proclame la liberté d'expression, et on va avoir effectivement un souffle d'air frais et on va avoir effectivement une presse satirique qui va très vite se développer. Mais ça va être de très courte durée. Très vite, le politique, le cadre, je dirais, le contexte de la Révolution va conduire à ce qu'on essaye de restreindre cette liberté. Tout le 19e siècle, on a effectivement des expressions satiriques qui vont se développer et on aura de cesse d'avoir des cadres juridiques qui essayent, je dirais, de définir, je reprends des termes de l'époque, les règles du bon goût et des bonnes mœurs. Et à l'époque, la répression est extrêmement brutale. D'ailleurs, c'est pas limité d'ailleurs à la presse satirique. Dès qu'on était effectivement dans une expression critique trop forte, c'était la prison. Et finalement, c'est avec le XXe siècle qu'on voit apparaître un cadre juridique qui va effectivement asseoir et disons protéger cette presse satirique. Dans le reportage revient sans arrêt l'idée de expression choquante. Et précisément, quand vous regardez ce qui va rassurer, je dirais, le travail des journalistes de la presse satirique, c'est justement un cadre juridique qui admet que un contenu, des idées, des expressions puissent être choquantes. Par exemple, le premier texte, c'est celui de 1976 de la Cour européenne des droits de l'homme, et elle dit qu'il faut accepter que des informations, des idées puissent heurter, choquer, inquiéter l'État ou une fraction de la population.
Mais alors aujourd'hui, justement, il y a ce cadre théoriquement protecteur et Charlie Hebdo est en but à des injures, des insultes, des menaces de mort. On lui envoie des photos de cercueil, d'armes, etc. Enfin, c'est quand même extrêmement violent tout ce qu'ils reçoivent comme message.
Oui, alors, j'ai bien sûr, hein, mais il faut certainement se garder peut-être de toujours penser que ce que nous vivons aujourd'hui n'a jamais existé. Alors, c'est vrai que les réseaux sociaux sont un phénomène tout à fait contemporain et qu'il donne une impression d'amplification. Mais lorsque vous regardez l'histoire précisément et la manière dont la presse satirique a été confrontée, à une répression, à une tentative de l'encadrer, eh bien, je crois qu'on retrouve ce phénomène de rejet d'une expression qui est toujours d'ailleurs dénoncée de la même manière, atteinte aux mœurs, atteinte au bon goût. Et en fait, évidemment, c'est le refus de l'idée de l'autre.
Des dessinateurs assassinés,
Ça, on ne l'a jamais vu.
Heureusement.
C'est assez nouveau, quand même.
Alors, et vous, Zineb, vous êtes toujours escortée par des gardes du corps.
Tout à fait. Et j'ai aussi mon lot de menaces, de morts, d'insultes, quasi quotidiennes, surtout cette année-ci. Enfin, c'est cyclique maintenant, avec des cycles de plus en plus rapprochés. J'aimerais rebondir sur ce qui vient d'être dit, car, en effet, ce qui est paradoxal dans la situation de Charlie Hebdo, c'est que nous sommes dans un pays qui garantit la liberté d'expression, un pays où le sang des anciens, de nos ancêtres, a coulé pour acquérir ce droit-là. Mais c'est un droit qui est aujourd'hui, de fait, violé. Et c'est ça la nouveauté. C'est peut-être que, oui, les violations, quand il s'agit de contestations politiques, elles ont existé dans le passé, mais c'est tout à fait nouveau quand même que le blasphème, le délit de blasphème de fait soit réintroduit en France. Car c'est cela la vérité. Je me souviens par exemple que Charb avait une fois reçu une campagne d'insultes et de menaces parce qu'il avait écrit un truc drôle sur les surfeurs. Donc les surfeurs n'étaient pas contents. Il avait écrit un article drôle où il espérait qu'il se fasse manger par les requins. Mais on savait très bien que ce type d'insultes sur les réseaux sociaux ne nécessitait pas que Charb soit protégé par les gardes du corps. En revanche, lorsque on touche au blasphème, et seulement concernant la religion musulmane, là, nous sommes dans quelque chose qui est d'un autre ordre. Le châtiment, on va dire, divin exécuté par la main des hommes s'est abattu sur Charlie Hebdo. Et nous, dans nos vies, ça a été un changement total. Nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Nous vivons sous cette épée de Damoclès. Et ça, c'est une situation inédite en France.
Et est-ce que vous portez plainte à chaque menace, Zineb ?
Si ce ne serait pas possible de porter plainte à chaque menace, parce que c'est sans fin, ce sont des milliers et des milliers de messages de gens qui se cachent toujours d'ailleurs derrière l'anonymat ou pas. Parfois, les menaces peuvent être si décomplexées que certaines personnalités publiques peuvent se permettre de proférer des menaces. Alors, dans les cas où on sait que l'auteur des menaces est en France, je porte plainte de façon systématique, car je pense qu'il faut que la justice se passe par là, qu'il faut que ceux qui font ce type de choses comprennent qu'il n'y a pas d'impunité, et la défense de la liberté d'expression passe aussi par ça. Il faut d'abord arracher cette liberté d'expression en l'exerçant, car elle ne s'octroie pas lorsqu'elle est menacée. Il faut l'exercer pour qu'elle continue d'exister. Charlie Hebdo a tenu ce bastion, on va dire, pendant des années.
Continue de le faire.
Je ne pense pas qu'il redessinerait le prophète, je l'espère. Mais je pense que ce droit-là, cette liberté-là, a été perdue en France. Pour ma part, je n'ai jamais été dessinatrice et je n'ai pas de talent dans le dessin, sinon je le ferais. Car j'estime que si le sang de nos collègues a coulé, il ne faut pas qu'il ait coulé pour rien. Il faut que la cause pour laquelle ils sont morts continue d'être défendue. Et pour ma part, je me dis que si je suis aujourd'hui défendue par, si je suis protégée par la police française, par le contribuable français, donc, je dois au contribuable français de continuer à tenir ce bastion-là de la liberté d'expression.
Vous parlez du contribuable, Zineb, mais ça représente également des frais importants pour le journal. Cette sécurité, ça pèse sur ses comptes. Jean-Marie Charron, à terme, est-ce que ça pourrait même menacer l'existence du journal ?
De toute façon, on est face à une presse qui est extrêmement fragile. Hein. On a vu évoquer le retour à des chiffres de diffusion qui étaient déjà proches de ce qui était même un peu, qui reste un peu supérieur à ce qui était la situation.
40 000, 60 000.
Oui, oui. Donc on est de nouveau, je dirais, dans un étiage qui est relativement bas, qui n'est pas inattendu, parce que si vous regardez aujourd'hui ce que sont les publications qui ont un fort caractère, que ce soit par exemple en travaillant sur l'enquête ou en travaillant sur le reportage de fond, enfin, etc., on voit que la plupart des publications sont autour de 30 000, 40 000 exemplaires. Ça exige, pour ceux qui y travaillent, souvent des contextes difficiles. Hein, c'est par exemple la précarité. Hein, très peu de gens peuvent être salariés dans ce type de publication. Et comme vous le disiez à l'instant, c'est effectivement une fragilité qui peut être amplifiée par des actions en justice ou des actions de protection. Et là, je dirais que il faut certainement, moi c'est un élément qui me, c'est vrai qu'il y a des aspects exceptionnels que je ne vais pas contester, mais moi il y a deux aspects que je trouve préoccupants dans la période. C'est vrai que avec la question du blasphème, on a vu que le rejet, l'agression à l'égard de journalistes a pris une forme exceptionnellement grave. Mais je constate que l'année qui vient de s'écouler est une année aussi où de plus en plus de journalistes, sur leur terrain, dans leur travail, par exemple lors des manifestations des Gilets jaunes, ont eu affaire à la violence aussi. On n'a pas admis...
De la part des manifestants
ouais. qui, eux, n'acceptaient pas la manière dont on rendait compte dans les médias de leur manière de s'exprimer, de leurs revendications ou de leur manière de se comporter. C'est quelque chose qu'on avait déjà connu un peu avec la crise des banlieues, avec certains mouvements sociaux. Mais là, ça a pris une ampleur tout à fait exceptionnelle. Et on a vu, alors c'est vrai qu'on n'a pas de morts, heureusement, mais j'ai des tas de cas de journalistes en burn-out, ne pouvant plus travailler, parce que les conditions sont devenues extrêmement difficiles. Deuxième aspect que je voulais souligner, c'est aussi un contexte général. C'est vrai qu'on critique la manière dont les journalistes sont tressés sur les réseaux sociaux, par exemple, mais moi je suis frappé aussi de la manière dont les politiques aujourd'hui parlent des journalistes, la manière dont les politiques surfent, je dirais justement, sur ce mouvement de contestation des journalistes. Moi, j'ai toujours à l'esprit, alors si vous allez me dire, faut éviter d'entrechoquer les citations, mais enfin, j'ai toujours à l'esprit la parole de Jean-Luc Mélenchon, qui d'ailleurs, à l'égard de journalistes de votre maison, pas de votre antenne, mais de votre maison, parlait de « il faut leur pourrir la vie ». Dans un pays où effectivement on a eu ce type de contexte, et hélas, ce n'est pas le seul homme politique, et je trouve que même au plus haut niveau de l'État, lorsqu'un président de la République nous dit que l'objectif des journalistes n'est plus désormais de rechercher la vérité, moi j'ai l'impression effectivement que là il y a une responsabilité, une co-responsabilité de la classe politique. Et puis vous l'évoquiez, quand on parle effectivement de la violence à l'égard des journalistes qui font leur travail, il y a celle des manifestants, mais il y a celle de la police. Enfin, Dufresne nous dit qu'il y a plus de 100 journalistes qui ont été blessés dans l'exercice de leur travail dans l'année qui vient de s'écouler. Voilà un contexte, moi, qui me paraît extrêmement inquiétant.
Zineb, dans ce contexte, est-ce que vous avez peur que tout ça ne favorise l'autocensure de la part des journalistes, un repli, une crainte
Mais c'est déjà très largement le cas.
Vous avez vous l'impression d'un recul fort?
Bien sûr, et pas qu'en France. L'exemple de la France est saisissant parce que la France est un pays libre, théoriquement. Moi, j'ai commencé à exercer le journalisme au Maroc, qui était un pays où il y avait des peines privatives de liberté pour les journalistes, où on nous a d'ailleurs fermé le journal dans lequel je travaillais sans aucune forme de procès, comme ça, par des centres de police du jour au lendemain. Et je pensais à l'époque que la France allait être un havre de paix pour l'exercice de ce métier. Ben, mon manque de peau, je débarque à Charlie Hebdo et puis je vais vivre ce drame absolu, mais je vais aussi avoir l'occasion de me rendre compte à quel point la bien-pensance est en train de ronger le métier, à quel point nous sommes en train d'étouffer de politiquement correct, à quel point il y a aussi une partie, malheureusement, de nos confrères qui contribuent à cet exercice qui consiste à distribuer des étiquettes de bien et de mal, et qui ont d'ailleurs contribuer à conspuer Charlie Hebdo sur les questions par exemple Charlie Hebdo cherche-t-il les problèmes, Charlie Hebdo va-t-il trop loin, Charlie Hebdo exagère-t-il. Beaucoup de nos confrères ont contribué.
Vous pensez à qui, par exemple?
Je pense notamment à la presse on va dire islamo-complaisante qui est sur une ligne idéologique qui accrédite la notion d'islamophobie l'islamophobie, eh bien, je ne pourrais pas donner d'exemple précis, quoique si, il y en a un qui me vient à l'esprit. Il y avait eu un article dans VSD, un ou deux mois avant les attentats, qui se posait la question, par exemple, si la protection policière de Charbes n'était pas du gaspillage de deniers publics et si elle n'était pas imméritée. Très sincèrement, j'ai oublié le nom du confrère ou de la confrère qui a écrit cet article, mais je pense que la honte, après ce qui s'est passé, a dû être extrêmement prenante. Enfin, en tout cas, que la personne a dû avoir honte. Je pense que le métier va mal, que la liberté d'expression va mal. Nous avons très très peu de correspondants aussi français à l'étranger, quand on compare avec les pays anglo-saxons, à cause d'abord du contexte à l'étranger, mais aussi à cause de souvent d'options politiques ou de complaisance vis-à-vis de certains régimes. Et pour ma part, en tant que journaliste qui arrivait du Maroc, j'ai été très très étonnée du niveau de corruption, je dis bien corruption, qui gangrénait aussi le métier en France.
Alors, Charlie Hebdo, est-ce que vous vous y retrouvez aujourd'hui dans la ligne de Charlie ? On ne peut pas parler de politiquement correct quand même, tout à fait.
Charlie Hebdo a toujours été un journal d'auteur. Et d'ailleurs, quelle n'était pas ma joie quand j'ai rejoint ce journal et que j'ai retrouvé cette famille professionnelle où, je dois le dire, où j'ai toujours écrit en toute liberté. J'ai dû quitter le journal après les attentats pour des raisons d'entreprise. D'ailleurs, comme beaucoup de mes collègues, il y a eu une vraie hémorragie de départ après les attentats. Je ne suis plus du tout une lectrice assidue de Charlie. J'oscille entre deux choses. D'abord, à chaque fois qu'il y a une polémique autour de dessins prétendument choquants de Charlie Hebdo, moi je n'ai jamais trouvé que c'était le cas. Mais comme disait Coco, effectivement, peut-être que je suis un public averti. Je trouve qu'un dessin ne peut être choquant que par l'idéologie qui le sous-tend derrière. Mais le dessin en soi ne peut en aucun cas être blâmable. C'est toujours l'idéologie qu'il y a derrière qui peut être répréhensible. On sait par exemple que les dessins de presse, dans certains épisodes de l'histoire, ont contribué à des crimes de masse, que ce soit pendant le génocide des Tutsis au Rwanda avec le journal Kangura par exemple, ou aussi pendant les années 30. Mais à Charlie Hebdo, on est tout à fait loin de ça. On est toujours dans un humour potache. Malheureusement, si aujourd'hui la limite, on va dire la barrière a légèrement baissé, puisqu'on ne peut plus y retrouver des dessins de Mahomet, alors que c'est bien dommage, car c'était le seul journal au monde qui se permettait de le faire. Je peux comprendre, à titre personnel, les collègues, je peux comprendre qu'ils ont déjà payé un tribut lourd et puis qu'ils n'ont pas été soutenus par l'ensemble de la profession dans le monde, mais j'aurais souhaité que l'option soit différente, car après le cataclysme que nous avons essuyé, il aurait fallu continuer, surtout après tout le soutien que nous avons reçu.
Alors je reviens sur cette notion de public averti, Jean-Marie Charron, parce que Charlie Hebdo, ça n'est pas que des dessins, il y a des articles de fond, parfois assez longs, et ça le grand public l'ignore bien souvent. Et quand des personnes se retrouvent face à des dessins de Charlie Hebdo hors contexte, comme c'était évoqué dans le reportage, il y a une perception de choc encore plus forte. Il y a vraiment un décalage entre l'intention, qui est évidemment être choquée, mais dans un contexte particulier, et la manière dont ces messages sont perçus hors cadre.
Oui, alors ça c'est effectivement la contradiction dans laquelle toutes les publications aujourd'hui qui se développent et qui vont avoir plutôt tendance à construire une communauté, pas une communauté au sens où on l'a évoqué à l'instant, mais communauté, c'est-à-dire que de plus en plus, on est dans une période où les mass-médias ont tendance, je dirais, à se fragiliser, parce qu'on est dans une société beaucoup plus fragmentée, et où chaque média est de plus en plus amené, effectivement, à construire sa communauté, son projet éditorial, ses valeurs, ses angles de traitement de l'information, et on voit que, d'ailleurs, un certain nombre de succès de presse, même de presse imprimée, au moment où on dit que la presse imprimée est condamnée, je ne sais pas si on prend Le 1, 21, Zadig, etc. Tout ça, ce sont des presses de communautés. Mais c'est vrai que le dessin de presse, en tout cas, confronte à quelque chose qui n'est pas le cas pour ces publications, parce que personne qui ne veut pas lire Zadig ne sera pas confronté à Zadig, pas plus que le 1. Mais c'est vrai qu'un dessin va circuler, il va être éventuellement hors contexte, et là, effectivement, il peut y avoir des réactions qui vont être plus importantes. C'est exactement le même phénomène que le phénomène des réseaux sociaux, où on va pas avoir des textes, mais on va avoir des citations, des bribes de textes qui vont apparaître, ce qui impose effectivement, je dirais, une... pour nos démocraties, pour le débat public, c'est pour ça que tout à l'heure j'évoquais la question des politiques et des intellectuels, on pourrait dire aussi, qui imposeraient à leur égard de prendre ces questions à bras le corps et de faire en sorte de contribuer à ce que la notion de débat, d'ouverture, d'acceptation de l'autre et des manières dont l'autre s'exprime soit davantage pris en compte, alors qu'eux, au contraire, me semble-t-il, aujourd'hui sont en train, de flatter plutôt, les réactions d'intolérance qu'on voit se développer. Tout à l'heure, vous parliez de la question internationale. Moi, il y a quelque chose qui m'a absolument désespéré. C'est quand le New York Times a annoncé qu'il arrêtait de publier des dessins parce qu'un dessin a donné prise à la polémique.
C'est vraiment du renoncement.
Là, c'est du renoncement. Alors, certains disent qu'il y reviendra, que c'est inévitable, mais c'est un signal terrible, parce que l'image de la presse américaine et de son éthique, de sa manière, surtout du New York Times, évidemment, va peser, est un exemple qui évidemment, va se répercuter dans d'autres endroits.
C'est de la peur, ou alors est-ce que c'est parce que le dessin de presse ne correspond plus à... une mode
Les deux aspects ont été évoqués. Je pense que fondamentalement, c'est de la peur. C'est-à-dire qu'on ne veut pas effectivement se confronter, avoir à assumer, un débat qui est compliqué à mener. Mais en même temps, effectivement, l'argument qui a été donné est un argument économique. Ça n'intéresse plus le public.
Alors, moi, ça ne m'a étonné qu'à moitié. Parce que déjà, en 2015, lorsque les attentats avaient eu lieu, je pense que le New York Times était le journal qui avait envoyé le plus de correspondants, qui était à l'époque dans le bâtiment de Libé, du journal Libération, qui nous avait accueillis après les attentats. Alors, il y avait le journaliste qui traitait de l'enquête, et puis il y avait une journaliste qui parlait aux rescapés, etc. Et ils étaient, je me souviens que ces correspondants, qui étaient fort sympathiques, s'excusaient, avaient quasiment honte de nous dire que la couverture du numéro des survivants ne passait pas dans le New York Times, car la peur était maquillée par un argument de bien-pensance pour dire que finalement, on ne veut pas provoquer les musulmans, ce qui revient à dire Charlie Hebdo les a provoqués.
Merci Zineb El-Razoui, merci Jean-Marie Charron. Charlie Forever, le grand reportage de cette semaine était signé Antoine Marette. Réalisation Annie Brault avec Florent Bujon à la technique. Un grand merci à l'équipe de la documentation d'actualité. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur franceculture.fr. Et avant de nous quitter, cette dernière information, vivre avec le terrorisme, ce sera le thème de LSD, la série documentaire toute la semaine prochaine. Premier épisode lundi à 17h, les mots des survivants.